aujourd'hui à Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, au Cameroun, Paul Biya a été réélu président avec 71,28% des voix. Un accord de paix a été conclu entre l'Éthiopie et le Front de Libération de l'Ogaden après 30 ans d'insurrection. John Bolton est à Moscou, deux jours après le retrait américain du traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire. Enfin, assassinat du journaliste Khashoggi, Paris, Londres et Berlin demandent des comptes à l'Arabie Saoudite. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord... Ce soir, dans l'actualité africaine, au Cameroun, Paul Biya a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Il a obtenu 71,28% de suffrages exprimés selon le verdict des urnes rendu ce lundi par le Conseil constitutionnel. À Yaoundé, la correspondance de Emmanuel Jules Tap.
Pour le scrutin du 7 octobre dernier, Paul Biya a gagné dans 9 des 10 régions du pays et a été battu uniquement dans la région du littoral par l'opposant Maurice Kamto. Le président sortant est crédité d'une large victoire dans les deux régions anglophones en crise, soit 81,73% dans le nord-ouest et 77,69% au sud-ouest. Les résultats de la présidentielle de 2011 ont par ailleurs dévoilé un nouveau chef de file de l'opposition à la personne de Maurice Kamto, qui a obtenu 14,23% des suffrages exprimés. Le troisième de la course est le plus jeune candidat à cette élection, Cabral Libi, avec 6,28% sous la bannière du parti Univers. Par contre, le Social Democratic Front, SDF, jadis principal parti de l'opposition, enregistre son plus mauvais score à l'élection présidentielle depuis 1992. Son candidat Joshua Oshi arrive en quatrième position avec 3,35%. Le taux de participation générale au scrutin du 7 octobre est de 53,85%. En zone anglophone, il est de 5,36% dans le nord-ouest et 15,94% au sud-ouest. La proclamation des résultats ce lundi à Yaoundé s'est faite sous haute sécurité en prévision d'une marche de protestation contre les 10 résultats annoncés par l'opposition. Paul Biya va prêter serment en début novembre prochain. Au terme de ce mandat, il aura 92 ans. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Et nous reviendrons sur la victoire de Paul Biya dans la seconde partie de cette édition. En Guinée équatoriale, 34 prisonniers, membres du principal parti d'opposition, ont été libérés 12 jours après l'annonce d'une grâce présidentielle. Parmi les prisonniers figurent un député et un conseiller municipal. Leur parti est interdit depuis février. Deux militants de ce même parti, Evaristo Oyagasima et Juan Obama Edu, sont morts en détention respectivement fin mai et début juillet. Le recensement électoral en Guinée-Bissau, dont la fin était prévue le 20 octobre, a été prolongé d'un mois, une extension qui devrait entraîner un report des élections législatives du 18 novembre. Ces élections doivent permettre de dénouer la crise politique que traverse ce pays depuis la destitution en août 2015 par le chef de l'État de son premier ministre, Domingos Simões Pereira, chef du PAIGC, au pouvoir auquel M. Vaz appartient également. L'Union européenne a annoncé avoir alloué 7,2 millions d'euros supplémentaires afin d'intensifier la lutte contre le virus Ebola qui a fait 153 morts depuis août en République démocratique du Congo. Cette dixième épidémie Ebola a été déclarée le 1er août dans la province du Nord Kivu. Et puis RDC toujours, 15 personnes parmi les dizaines de milliers de Congolais expulsés d'Angola sont décédées, principalement de la tuberculose, en 3 semaines dans une localité du Kasaï au centre du pays. Tous ces morts sont dus à la sous-alimentation et aux maladies multiples, principalement la tuberculose. C'est ce qu'a précisé le docteur Miko Mikobi, responsable de l'hôpital de Kamako. Ce médecin affirme avoir déjà reçu 30 318 malades parmi les refoulés, dont la plupart souffrent de la tuberculose, de cas de violence sexuelle et corporelle et des maladies respiratoires. Le facilitateur dans la crise burundaise, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, a convoqué une dernière session du dialogue de sortie de crise au Burundi à partir de mercredi à Arusha. Cela en vue d'organiser des élections inclusives en 2020 au Burundi. Plus de détails avec Jacques Aristide.
Benjamin Mkapa s'attend à ce que les Burundais discutent librement et de façon concluante de toutes les questions qui permettraient la tenue des élections de 2020 avec succès. Lors de cette rencontre prévue du 24 au 29 octobre, toutes les sessions du dialogue inter-burundais tenues depuis décembre 2015, au plus fort de la crise qui a débuté avec la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat qu'il a obtenu en juillet de la même année, ont buté sur le refus du gouvernement de discuter avec son opposition en exil, qualifiée de putschiste. Le chef de l'État a annoncé son intention de ne pas se représenter en 2020. Bujumbura a annoncé officiellement son intention de participer au cinquième et dernier round des pourparlers, mais il revient que le gouvernement, le parti au pouvoir et leurs alliés attendent l'issue de discussions en coulisses avec l'équipe de M. Mkapa pour décider de leur participation. De son côté, l'opposition, qu'elle soit au Burundi ou en exil, a envoyé une proposition commune de sortie de crise selon ses leaders et se dit prête à discuter de l'ordre du jour présenté par la facilitation.
Au Tchad, des manifestations étudiantes ont été dispersées par la police anti-émeute à N'Djamena au premier jour d'une grève sèche et illimitée pour réclamer des services universitaires et le versement d'une bourse datant de 2016. En Éthiopie, le gouvernement a annoncé avoir conclu un accord de paix avec le Front National de Libération de l'Ogaden, un groupe de rebelles séparatistes du sud-est du pays, mettant officiellement un terme à plus de trois décennies d'insurrection dans la région somalie de l'Éthiopie. Depuis sa prise de fonction en avril, le premier ministre réformateur Abiy Ahmed a, entre autres, libéré des prisonniers politiques et scellé la paix avec l'Érythrée. Conflit au Darfour, l'émissaire de l'ONU et de l'Union africaine pour le Soudan, Jeremiah Kingsley Mamabolo, a réclamé au Conseil de sécurité de prendre des mesures contre le chef rebelle Abdul Wahid al-Nour, qui, selon ses termes, préfère le conflit armé à la cessation des hostilités. L'appel du médiateur international survient alors que l'ONU et l'Union africaine sont engagés depuis l'été dans un processus de retrait de la MINUAD.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, des enquêteurs turcs ont découvert aujourd'hui un véhicule portant une plaque diplomatique saoudienne abandonnée dans un parking d'Istanbul dans le cadre de l'enquête sur le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. C'est ce qu'ont rapporté les médias turcs. Nous écoutons Nanit Talani.
La berline noire portant la plaque diplomatique a été retrouvée dans un parking souterrain à Sultangazi, dans le nord d'Istanbul. Elle est enregistrée au consulat d'Arabie Saoudite. Selon l'agence de presse étatique Anadolu, les enquêteurs ont demandé au consulat saoudien et au parquet d'Istanbul l'autorisation de fouiller le véhicule. Le président Tayyip Erdogan a promis d'exposer demain mardi la vérité nue devant le Parlement turc. La Turquie est décidée de faire la lumière sur le meurtre de journalistes, convaincue qu'il a été planifié, selon Ömer Çelik, porte-parole du parti au pouvoir à Ankara. Il a ajouté que des efforts conséquents ont été déployés pour le dissimuler. Après disparition du journaliste, un Saoudien a été amené à Istanbul pour jouer le rôle de double. Des images de vidéosurveillance montrent cet agent identifié comme Mustafa Al-Madani, 57 ans, de taille et d'un physique similaire à Khashoggi, revêtu des vêtements du journaliste, sortir du consulat. L'Arabie saoudite n'a pas confirmé ni démenti, mais a toujours souligné que la mort de Khashoggi n'était pas intentionnelle.
Jared Kushner, gendre et conseiller de Donald Trump, a déclaré avoir recommandé au prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman d'être transparent sur la mort du journaliste Jamal Khashoggi, dont l'Arabie saoudite a reconnu samedi qu'il avait été victime d'un meurtre au sein de son consulat en Turquie. Par ailleurs, Paris, Londres et Berlin ont demandé à l'Arabie saoudite de clarifier exactement ce qu'il s'était passé dans un communiqué commun. Les trois pays soulignent qu'il faut faire davantage pour établir la vérité. John Bolton, conseiller de la Maison-Blanche à la Sécurité nationale, s'est rendu à Moscou. Nous faisons le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le conseiller de Donald Trump a entamé son séjour par une rencontre avec Nikolaï Patrouchev, son homologue russe. Rien n'a filtré de leurs échanges. John Bolton va aussi rencontrer Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, puis le président Vladimir Poutine. Moscou s'attend à ce que le conseiller américain leur explique le retrait de Washington du traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé qu'une sortie américaine de ce traité rendrait le monde plus dangereux. Il rejette les accusations américaines selon lesquelles son pays viole ce traité. Washington se plaint du déploiement du système de missiles dont la portée dépasserait la limite convenue des 500 km. L'Union européenne estime que les deux pays doivent poursuivre leur dialogue pour préserver ce traité. Pékin a appelé les États-Unis à bien réfléchir avant de se retirer de l'accord. Le traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire a été signé en 1987 à la fin de la guerre froide par le dernier dirigeant de l'Union soviétique Mikhail Gorbatchev et le président américain de l'époque Ronald Reagan. Il a aboli l'usage de toute une série de missiles d'une portée variant de 500 à 5500 km.
Et voilà, c'était le journal, désormais l'essentiel de l'actualité économique, présenté par Eric Manirakiza.
Le Centre de promotion et des investissements de Côte d'Ivoire a lancé un portail unique des services aux investisseurs. Il sera le seul point d'interaction entre de potentiels investisseurs et l'administration ivoirienne. L'objectif visé, offrir les services administratifs indispensables pour investir et faire des affaires dans le pays. Abidjan veut figurer dans le top 50 du classement Doing Business à l'horizon 2020. Le Zimbabwe espère apurer ses arriérés de dettes de 2 milliards de dollars auprès de la Banque mondiale et de la BAD. Le ministre des Finances, Mthuli Nsubi, a aussi indiqué que l'annulation de la dette dans le cadre de l'initiative Pays pauvres très endettés est possible. Le Zimbabwe affiche un taux de chômage de 80%, un taux de pauvreté de 72% et une inflation galopante. Harare a beaucoup de mal à obtenir les lignes de crédit et attirer les investissements nécessaires à la relance de son économie. Près de 1% de la population mondiale détenait une richesse globale de 142 milliards de dollars à la fin de l'année 2017. En revanche, plus de 3 millions.
Maintenant, la page sport, présentée ce soir par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Veillée d'armes en Ligue des Champions en Europe et le retour de Ronaldo à Manchester.
Cristiano Ronaldo revient à Old Trafford, le stade qu'il a vu remporter son premier ballon d'or, c'était en 2008. Après un grand match contre le Genoa ce week-end, Ronaldo va faire son retour lors de la troisième journée de la compétition reine. À Manchester United, la situation de José Mourinho et les performances de Paul Pogba font osciller les supporters entre indignation, colère et soutien mesuré. Mais la grande question sera aussi l'accueil qu'ils vont réserver à Cristiano Ronaldo. Quant à l'attaquant vedette de Manchester United, Alexis Sanchez, il sera absent lors de ce match.
Les autres matchs ?
Le Real Madrid, en pleine crise, va chercher à se rassurer face à la modeste équipe tchèque du Victoria de Plzeň lors de cette troisième journée. L'Atlético Madrid se rendra sur la pelouse d'un Borussia Dortmund très inspiré depuis le début de la saison. Le Paris Saint-Germain accueille Naples alors que le FC Barcelone de Lionel Messi, en tête du classement des buteurs de cette C1, avec 5 réalisations en 2 matchs, recevra l'Inter Milan. Lyon et Monaco affronteront respectivement Hoffenheim et le FC Bruges.
La Fédération italienne de football a enfin un président.
Gabriele Gravina, qui était jusqu'alors président de la Lega Pro, le championnat de 3e division, a été élu président de la Fédération italienne de football près d'un an après la démission de son prédécesseur, Carlo Tavecchio.
Et la NBA, le championnat nord-américain de basketball ?
Le double champion NBA en titre Golden State a concédé à Denver sa première défaite de la saison, 100 à 98, tandis que son grand rival Houston, battu par les Clippers 115 à 112, n'arrive pas à enchaîner. Oklahoma City n'a toujours pas gagné cette saison. Quant à Cleveland, 3 matchs, 3 défaites, une nouvelle défaite à domicile face à Atlanta, 111 à 133.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Au Cameroun, après près de 36 ans au pouvoir, le président Paul Biya a donc été reconduit pour un mandat de 7 ans. Avec 71,28% des suffrages exprimés, il est largement vainqueur de l'élection présidentielle du 7 octobre, loin devant ses principaux rivaux, c'est-à-dire Maurice Kamto, Cabral Libi et Joshua Ossi. L'opposition est montrée du doigt pour avoir été incapable de désigner un candidat unique dans ce scrutin à un tour. Jacques Aristide s'est entretenu avec Hilaire Kamga, porte-parole de la plateforme de la société civile pour la démocratie au Cameroun.
On n'est pas surpris parce que les forces en face de M. Biya Paul, la classe d'opposition, n'a pas été capable avant la convocation du corps électoral de créer une dynamique de convergence des forces pour capitaliser le rejet de ce système qu'il y a au sein de l'opinion camerounaise. Et par conséquent, cette classe politique n'a pas été capable d'impacter sur les inscriptions sur les listes électorales. Et on va aux élections avec un fichier électoral essentiellement contrôlé par le RDPC à travers l'organe de gestion des élections, qui n'est que de 6 millions à peine d'électeurs inscrits, sur un potentiel de 16 millions. Et ces 6 millions, à la réalité, reproduisaient le schéma de l'élection, des élections de 2013, où M. Biya Paul et son parti l'avaient emporté avec près de 3 millions de voix de différence. Donc, sur le même fichier électoral, il ne fallait pas s'attendre à une magie ou à autre chose. Donc, la faute, voyez-vous, c'est la classe de l'opposition qui, dans une logique messianique, n'a pas été capable de fédérer avant pour créer ce qui aurait pu amener les gens à s'inscrire. Bien entendu, quand j'ai fini de dire cela, nous n'attendions pas une coalition des candidats, mais une coalition des forces de changement en face du système de M. Biya qui, voyez-vous, il faut le dire, c'est très clair, est totalement honni par une bonne majorité des Camerounais, parce que les résultats même rendus par la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, montrent clairement que moins de 4 millions d'électeurs ont pu s'exprimer, et 4 millions n'est pas représentatif par rapport aux 16 millions de potentiels électeurs que le Cameroun compte aujourd'hui.
La situation est-elle tendue à Yaoundé et ailleurs dans le pays?
Elle est plus tendue de manière virtuelle, mais la perception de la tension peut se voir à travers le grand déploiement des forces de sécurité dans la plupart des carrefours de la ville. Il faut noter qu'il y avait un appel à manifestation par des groupes pour la place de la poste centrale aujourd'hui qui n'a pas pu se tenir, peut-être à cause de la grande militarisation, mais aussi la démobilisation des Camerounais qui, avec les 14% que le principal opposant aujourd'hui a pu avoir, n'était pas de nature à pouvoir générer une mobilisation populaire suffisante.
Le Cameroun, c'est un pays confronté à Boko Haram, aux sécessionnistes des deux régions anglophones, mais aussi à l'émergence d'une certaine tension ethnique. Le défi pour Paul Biya, ce président de 85 ans, sera-t-il de préserver l'unité du pays qui paraît aujourd'hui très fractionné d'après des observateurs?
Je ne connais pas son programme de campagne, d'ailleurs, qui n'a pas fait campagne du tout. Et donc, la question de la préservation de l'unité ne semble pas, au regard de sa gouvernance des 36 ans, être une grande préoccupation. Je pense qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour maîtriser la gestion de son propre pouvoir pendant ce temps, quitte à ce que l'exacerbation des haines tribales et régionales puisse se faire. Ça semble ne pas être une grosse préoccupation par M. Biya Paul, qui s'est illustré par son incapacité à gérer la crise anglophone ou à adresser les questions posées par les anglophones sur la table.
Hilaire Kamga, porte-parole de la plateforme de la société civile pour la démocratie au Cameroun, il était joint à Yaoundé.
Nos infos sur voaafrique.com.
La crise économique et financière que traverse le Tchad depuis bientôt 4 ans paralyse toute l'administration tchadienne, y compris les différentes communes d'arrondissement du pays. À N'Djamena, par exemple, les agents des 11 communes accusent plusieurs mois d'arriérés de salaire. Le syndicat national des agents des communes du Tchad appelle par deux fois de suite ses militants à aller en grève pour exiger le versement de leur salaire, mais sans succès. André Komajingar, correspondant de VOA Afrique au Tchad, fait le point depuis N'Djamena.
Les agents des 11 communes d'arrondissement de la ville de N'Djamena, y compris ceux de la mairie centrale, accusent aujourd'hui entre 3 et 15 mois d'arriérés de salaire. Une situation qui a amené le responsable du syndicat national des communes du Tchad à lancer pour la première fois une grève d'avertissement de 3 jours, puis une grève sèche illimitée. Mais ces responsables ont capitulé sous les menaces et pressions des autorités communales. Quelques agents apprécient diversement ce revirement.
Moi, je suis contre, parce que la fois dernière, on a suspendu la grève. Et ce n'est pas abouti à une solution. Et cette fois-ci, quelles sont les garanties?
Suspension juste pour une semaine, là, c'est pas grave. Nous, au 7e arrondissement, on a 10 mois d'arriéré. Supporter une semaine, c'est pas grave pour nous.
Je suis le chef de section sapeur-pompier au niveau de la commune du 8e arrondissement. Il y a des réserves qui entrent, mais on ne connaît où ça part. Je ne suis pas d'accord. La grève devrait normalement continuer.
Le président du syndicat national des agents des communes du Tchad, Adoum Thierry, justifie son acte.
Étant donné que l'arme d'un syndicaliste c'est le dialogue, nous leur accordons une semaine au moins. Dans tout ce, il y a des pressions, mais nous ne cédons pas aux menaces. Une semaine, c'est pas beaucoup. Et quand quelqu'un vous trompe une fois, deux fois, pour la troisième fois, c'est lui qui se trompe. Donc si les gens n'ont pas l'engagement, nous allons aller jusqu'au bout.
Le maire de la commune du 7e arrondissement de la ville de N'Djamena, Ahmad Mahamad Gueme, qui vient d'être installé, trouve inadmissible que ses agents totalisent plus de 10 mois d'arriérés de salaire. Il dévoile les actions à mener pour éponger ces arriérés.
Nous avons mis en place des commissions de recouvrement qui sont sur le terrain. Nous estimons que d'ici peu, nous pourrons donc arriver à soulager nos employés et surtout de parvenir à obtenir des transferts de nos subventions qui sont au niveau du trésor. Ces fonds-là soient très rapidement transférés dans les comptes des communes afin de pallier à cette situation. Et enfin, nous sommes en train d'autoriser les avances de salaire à beaucoup de nos agents.
La plupart des agents des 42 communes issues de la première élection locale de janvier 2012, dont le mandat a été prolongé en 2016 par le président de la République, sont dans la même situation. Ceux des communes de Bangor, Laï et Pala au sud du Tchad ont tenté également de répondre au mot d'ordre de grève lancé par leur syndicat. Mais ils ont été dissuadés par les responsables exécutifs communaux de leur localité. En revanche, la commune de Mundu, capitale économique du Tchad, retient son souffle. Longtemps asphyxiée économiquement par le pouvoir, elle vient de recevoir exceptionnellement du chef de l'État une somme de 500 millions de francs CFA pour relancer ses activités. Un geste qui alimente les débats dans le milieu politique. André Kotmadjingar, N'Djamena, VO Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, à N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
En République démocratique du Congo, un nom à retenir, Charline Katsouva, qui essaye au milieu d'énormes sacrifices à l'orphelinat Maman Marie de redonner espoir aux enfants orphelins victimes des tueries depuis 4 ans à Beni, dans le Nord Kivu. Notre correspondant Charlie Kassereka a visité cet orphelinat.
C'est au quartier Boyken, environ 5 km du centre-ville de Beni, que VOA Afrique est allé rencontrer ses enfants perdus de Beni. 65 ans d'âge, Charline Katsouva a eu l'idée d'héberger des enfants après la mort de son propre garçon et la souffrance des nombreux enfants restés seuls après la mort de leur maman à l'accouchement. Mais c'est vers octobre 2014 que maman Charline a créé son orphelinat après les premiers massacres des civils. Aujourd'hui, le plus âgé de sa maison a 19 ans et le cadet n'a que 2 ans.
Tous ces enfants ne savent rien de leur famille. Beaucoup d'entre eux sont venus juste après le début des massacres ici chez nous à Beni. Aujourd'hui, j'héberge 26 enfants.
Ici, chacun de ces enfants a une histoire propre à lui. Certains ont vu comment leurs parents ont été tués et il s'en est sorti miraculeusement. C'est le cas des princes, 12 ans. Il est ici depuis 2 ans.
Moi, ils ont tué mon père et ils ont amené ma mère avec eux. Ce soir-là, je me suis caché juste quand ils avaient tourné le dos. J'ai pris la fuite et le lendemain, j'ai été amené ici. On m'a lavé et donné des habits et depuis, je vis ici.
Cette demeure qu'elle loue est devenue un refuge et une maison d'accueil pour plusieurs enfants dont les parents sont morts dans les massacres de Beni depuis 2014. L'espace est donc insuffisant. À la tombée de la nuit, les nattes et les morceaux de matelas sont étalés dans une maison où des meubles doivent être superposés avant le sommeil. Mais tout d'abord, les repas. Madame Katouva doit veiller si tout le monde a eu son plat, seule sans soutien. Avec ses 65 ans d'âge, Katouva Charline brave d'énormes difficultés, surtout la nourriture et les loyers pour la petite maison qu'elle loue au quartier Boïken, un quartier souvent attaqué par les éléments de la rébellion des ADF.
Pour dormir, nous étalons au sol des morceaux de matelas, de bâches et de sacs dans cette nouvelle maison. Je demande surtout à la première dame, Oli, Lembe, de me venir en aide.
L'orphelina Maman Marie n'a jamais eu de documents légaux qui coûtent énormément cher, selon Madame Charline Katouva, qui fait savoir à VOA Afrique qu'elle est souvent tracassée par les services de sécurité et les propriétaires de la maison avec des menaces d'expulsion suite à l'insolvabilité du loyer. Des retours de Beni, Charlie Kassereka, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Des milliers de migrants, la plupart venus du Honduras, se sont massés à la frontière nord du Guatemala. Ils veulent traverser le Mexique pour venir aux États-Unis. Le chemin est laborieux. Certains découragés sont retournés chez eux, mais d'autres restent déterminés à atteindre à tout prix le sol américain, malgré les sévères mises en garde du président Donald Trump. Reportage de Zlatika Okey, rendu par Chérubin Dorsil.
Jeudi, les autorités mexicaines sont parvenues à bloquer la caravane à la frontière, mais de nombreux migrants sont entrés illégalement dans le pays par le fleuve Suchiate, séparant le Mexique du Guatemala. Michael, un migrant venu du Honduras.
Nous prenons beaucoup de risques à traverser la rivière. Nous risquons nos vies parce qu'au Honduras, il n'y a aucune chance de vie meilleure. Il n'y a pas d'avenir.
Dans un premier temps, le président Donald Trump a remercié le Mexique d'avoir bloqué cette avancée des migrants.
Je veux remercier le Mexique qui a été incroyable et qui respecte maintenant le leadership des États-Unis.
Après avoir passé une deuxième nuit au Mexique, des milliers de migrants ont repris la route pour tenter de rejoindre la frontière américaine. Ce matin, le président Trump a accusé ces trois pays, le Guatemala, le Honduras et le Mexique, de ne pas avoir été capables d'empêcher cette déferlante. Nous allons commencer à couper ou réduire de façon significative l'énorme aide que nous leur accordons, a prévenu M. Trump dans un tweet. Le chef de l'exécutif américain a reproché à l'armée et à la police mexicaine d'être incapables d'arrêter les migrants. Il avait déjà menacé de fermer la frontière si le Mexique échouait à stopper la progression des migrants.
Je vais fermer la frontière avant qu'ils arrivent dans notre pays. Je vais envoyer des soldats, non des réservistes, mais des militaires.
Son administration a été critiquée pour le traitement réservé aux migrants à la frontière avec le Mexique. Dimanche, l'ancien vice-président démocrate Joe Biden est revenu sur le sujet dans l'État du Nevada.
What the hell's going on?
Mais bon sang, que se passe-t-il aux États-Unis? Arracher des enfants des bras de leur mère à la frontière? Que faisons-nous? Que sommes-nous devenus?
Battant campagne pour les Républicains dans une autre partie du Nevada, le président Donald Trump en a fait une question politique à l'approche des élections de mi-mandat du 6 novembre prochain. Il a accusé les démocrates d'attirer des criminels aux États-Unis.
Le Parti démocrate invite ouvertement des millions d'étrangers illégaux à ne pas respecter nos lois, à violer nos frontières et à submerger notre nation.
Les présidents du Guatemala et du Honduras ont tenu une conférence de presse conjointe pour inviter les migrants à retourner chez eux. Le président hondurien Juan Orlando Hernández.
Je veux assurer les Honduriens que nous avons une équipe travaillant pour les accueillir et des offres en termes d'opportunités dépendant de ce que chaque citoyen veut faire de sa vie.
Environ 3 000 personnes composent cette caravane, selon un commandant de la police fédérale mexicaine. Mais le chiffre pourrait être plus élevé encore. Ils ont affronté la chaleur, escortés par des policiers locaux et survolés par un hélicoptère. La plupart d'entre eux n'ont ni eau ni nourriture. Leur trajet de 3 000 km pourrait prendre un mois, selon Rodrigo Abeja, membre de l'organisation Pueblos Sin Frontera, Peuple Sans Frontières, qui a déjà accompagné plusieurs caravanes vers les États-Unis.
C'est là. la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Lionel Gaïma. À la console, Joe Gill. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voaafrique.com et notre page Facebook, bien sûr. Restez avec nous tout de suite à votre avis, mais bien entendu avant un nouveau point avec l'actualité présentée par Henri Francisque. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayigouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
VOA Afrique.